Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé. Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, on va démarrer dans une poignée de secondes avec celle qui a été le bras droit de Jean-Pierre Pernaut, qui a été l'instigatrice de votre plus beau marché sur TF1. Elle vient de sortir un nouveau livre. Dominique Lagroux-Sempère sera notre invitée dans quelques instants. Nos coups de cœur télé aujourd'hui consacrés à la saison finale de Tandem. Stéphane Blancafort nous rejoindra d'ici quelques minutes. Nous aurons le plaisir de parler de Demain nous appartient et aussi du tournage des Mystères de la Marée qui vient de se dérouler en Charente-Maritime avec celui qui incarne Gabriel dans DNA. C'est bien sûr Martin Mille qui sera notre invité exceptionnel. Et puis on aura également aujourd'hui le plaisir de parler de la série HPI avec celui que vous adorez tous, Rufus, qui sera notre invité exceptionnel pour ce lancement de saison. Et puis enfin, coup de cœur ciné consacré au film Hawaï, le nouveau film de Mélissa Drijard en fin d'émission qui sera en ligne avec nous, accompagné de Émilie Caen, celle que vous avez tous adoré dans la trilogie du bon Dieu. Bref, vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre coup de cœur aujourd'hui est pour un livre. Et oui, ça arrive rarement, mais on y est aussi avec Dominique Lagroux-Sempère qui est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors Dominique, moi je vous avoue, je suis ultra fan de ce duo que vous meniez avec Jean-Pierre Pernaut, des plus beaux marchés dont vous êtes l'instigatrice avec Jean-Pierre et de tous ces bons moments qu'on a passés avec vous. Alors si vous avez tourné la page en tout cas du trésor de TF1 après le départ de Jean-Pierre, vous avez mené de beaux projets personnels. Le premier il y a 2 ans qui s'appelle Après l'orage, c'est un livre. Et puis là c'est un roman, Celle qui s'aime enfin, qui vient de sortir justement, dont on va parler dans un instant. Dominique, mais déjà, quel regard vous portez sur cet amour du public finalement? Est-ce que c'est pour vous assez surprenant justement, vous qui avez été très proche en tout cas des Français et notamment des régions pendant toutes ces années avec Jean-Pierre?
En tous les cas, je suis infiniment touchée. Voilà, ça me... Vous savez, quand vous allez dans les salons du livre, quand vous allez dans des dédicaces, c'est vrai que j'ai un rapport très privilégié avec les gens. Je pense tout simplement que quand on aime les gens, on ne triche pas et c'est aussi ce qui fait la force d'un lien. Voilà. Moi, j'ai jamais triché avec les gens. J'ai toujours été moi-même. Je suis assez authentique et je pense que ça, ça passe. Voilà, on dit toujours ça passe ou ça casse. Avec moi, c'est toujours passé. Voilà. Donc, je suis infiniment touchée, émue. Vous savez, quand vous avez des gens qui viennent vous voir en salon, en dédicace, et qui vous prennent dans leurs bras et qui pour certains même, voilà, sont émus à en pleurer, je peux vous dire que c'est un sacré cadeau de la vie, parce que ça veut dire que tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai fait avec mon cœur, eh bien, voilà, ça n'a pas de prix. Et quand le public vous le rend, y compris quand aujourd'hui vous êtes dans d'autres projets, c'est très inspirant pour moi et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible.
Alors, il est vrai que les bouquins, c'est des projets. Alors, le premier est très personnel, évidemment, après l'orage, hein, où c'est un livre très très personnel. Ce deuxième, Celle qui s'aime enfin, on parle de Toscane, justement, qui est une virtuose. C'est quoi ce livre? Racontez-nous un petit peu. C'est un roman? C'est une histoire vraie? Vous parlez de quelqu'un que vous connaissez? Racontez-nous un peu.
Non, c'était effectivement un roman, donc c'est différent de ce récit autobiographique que j'ai publié pour Après l'orage. Là, le roman, donc mon premier roman, en effet, raconte l'histoire de Toscane. Toscane est donc une musicienne. Elle est, je pense, la somme de toutes les femmes que nous sommes un peu toutes, les unes les autres. Elle est surtout celle qui se rend compte que pour aimer la vie, pour l'embrasser tout entière, cette vie, y compris dans les coups durs, il faut déjà apprendre à se respecter soi-même et à s'aimer soi-même. Et je pense que c'est la chose la plus difficile que de se respecter et de se respecter tout entière, c'est-à-dire y compris avec ses fragilités, avec ses défauts, et surtout d'être bienveillant envers soi-même. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans notre société. Alors,
c'est clair.
Pour répondre à votre question, c'est à la fois vous et moi, c'est à la fois cette femme que vous pouvez croiser dans la rue, c'est à la fois votre sœur, votre meilleure amie. Évidemment qu'il y a un peu de moi dans Toscane, puisque de toute manière, comme dans un reportage, on donne son regard sur les choses avec sa sensibilité. Mais évidemment que l'histoire de Toscane est une histoire inventée. Elle est faite de gens que j'ai rencontrés. Elle est faite de personnes que j'ai pu interviewer. Elle est faite probablement de ma sensibilité à moi, de mon regard sur les choses. Elle est surtout faite pour donner de l'espoir à celles et ceux qui vont lire. Et j'espère qu'en fermant ce livre, en tournant la dernière page de ce livre, c'est de se dire, en fait, ça vaut vraiment la peine de vivre. Ça vaut vraiment la peine de vivre, y compris quand on a des coups durs, on a des échecs, on a des trahisons. Et tout le monde est, à un moment ou à un autre, confronté à ça. Peu importe, il faut continuer. Et pour l'aimer encore plus, cette vie, pour faire ce pied de nez, justement, aux journées de pluie, eh bien, il faut se dire qu'on mérite tous d'avoir ce passage sur Terre. Donc, autant que ce passage sur Terre soit fait de la plus belle des manières, c'est-à-dire avec bienveillance et avec confiance en soi. Donc j'espère que Toscane vous donnera confiance en vous. En tous les cas, elle a ce seul mérite-là, le seul mérite de dire que chacun, vous et moi, ceux qui nous écoutent actuellement, se disent « elle est belle cette vie ». Voilà. Après, l'histoire est complètement imaginée, romancée, mais en tous les cas, vous voulez que je vous dise que j'aime Toscane? Oui, je l'aime profondément parce que c'est une fille bien et c'est une fille qui, j'espère, vous permettra de vous aimer davantage, vous et moi.
Eh bien, nous, en tout cas, on l'aime déjà, Toscane. Celle qui s'aime enfin, c'est votre premier roman. J'imagine que la fièvre de l'écriture va pas vous quitter comme ça, Dominique, et que vous êtes déjà certainement au travail pour nous livrer peut-être d'autres bouquins, d'autres romans. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez déjà?
Je dois vous avouer que j'ai une petite histoire qui se met en place dans ma tête. C'est toujours comme ça, que ce soit pour le premier roman, Celle qui s'aime enfin et celui qui va arriver là. C'est une petite musique qui est dans ma tête avec un personnage, avec un chemin qui se met en place. Donc oui, je ne m'arrêterai pas après ce premier roman. Est-ce que le troisième livre sera un roman? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera un récit comme le premier? Peut-être. En tous les cas, oui, j'ai envie d'écrire. Moi, j'ai une formation littéraire. J'aime ça. J'aime autant les reportages télé, audio que l'écriture. Donc oui, je vais pas m'arrêter là. Et c'est vrai que mon éditeur Flammarion qui me donne la possibilité d'assouvir ce plaisir-là. Donc je ne vais pas m'en priver.
C'est clair. La question que tout le monde doit vous poser à chaque fois qu'on vous voit, est-ce que aujourd'hui il y a des projets télé pour vous? Est-ce que vous aimeriez animer une émission particulière, un thème particulier, sur une chaîne particulière? Est-ce que vous avez des envies, en tout cas dans ce sens, ou des propositions?
Ce que j'aime à dire, c'est que je suis effectivement actuellement en train d'écrire, mais je suis avant tout, dans mon cœur, grand reporter. Voilà, je suis journaliste et ça, je pense qu'on l'est, on l'est à vie. Donc la télé me manque énormément. Le public me le rappelle si souvent. Après, il faut trouver la bonne chaîne, il faut trouver la bonne
le bon thème, la bonne émission.
Voilà. Je pense que la vie est très bien faite. C'est-à-dire que je pense que la vie, avec ses hauts et ses bas, vous permet aussi de prendre le temps de choisir et de présenter un projet qui vous ressemble. Moi, j'aime interviewer les gens, j'aime rencontrer les gens, j'aime raconter et être un passeur de vie. Donc, j'aimerais pouvoir, présenter un projet de témoignage, que ce soit des gens connus et des gens pas connus, parce que l'idée, c'est qu'en fait, qu'on se retrouve tous pour ce moment-là de témoignage, que chacun puisse s'y retrouver et se sentent concernés. Je pense que aujourd'hui, dans cette société qui va pas très bien, avec une actualité assez noire, je pense qu'il manque aujourd'hui, que ce soit en télé, en radio, un espace de bienveillance, un espace d'écoute, un espace de rencontre où chacun peut se nourrir de l'expérience de l'autre. Donc j'aimerais énormément, prendre les rênes d'une émission, d'un programme où on puisse donner la parole aux uns et aux autres et en sortir plus apaisé, nourri et en tous les cas moins seul. Je trouve qu'aujourd'hui, la souffrance de ce monde, c'est la solitude et l'entre-soi, chacun pour soi. Moi, j'ai toujours fonctionné en équipe et je pense que j'aimerais revenir pour cette émission-là et j'espère très vite.
Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous espère et en tout cas, voilà, cette bienveillance à la radio et cette vitrine, on l'a aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, on en est très très fiers en tout cas de pouvoir proposer un programme sur votre radio où on écoute nos invités et puis vous avez la possibilité effectivement de vous adresser à nos auditeurs de façon sincère et authentique. Donc voilà, on veut continuer dans cette voie et cet espace il est là. Voilà, ensuite on écoute la télé en tout cas déjà.
Exactement, c'est formidable et en attendant, on peut se retrouver sur ma chaîne internet, ma chaîne YouTube qui s'appelle Entre vous et moi, ou avec mon complice réalisateur Pascal Lucas, on présente des rencontres intimistes avec des personnalités. La dernière que nous avons diffusée est celle du chanteur Kali, qui nous raconte justement son enfance et cette enfance douloureuse avec la disparition de sa maman qui a fait qu'il est devenu aussi ce poète chanteur ultra sensible d'aujourd'hui. On a rencontré le réalisateur Claude Lelouch, on a rencontré la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Voilà, c'est un panel de rencontres qui montre que peu importe ce que l'on est devenu, on a tous été un enfant un jour, un petit garçon, une petite fille, et ce cheminement-là fait l'adulte qu'on est aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant de détricoter justement la personnalité d'aujourd'hui et de la remettre à nu avec ses faiblesses, ses doutes. Et c'est toujours important, je trouve, de remettre les choses à niveau. Voilà.
Eh bien, merci en tout cas. Dominique Lagrousse, en père, celle qui s'aime enfin, c'est chez Flammarion, c'est dans toutes les bonnes librairies, tous les bons espaces culturels. Leclerc, partenaire de notre émission, notamment. C'est votre premier roman, évidemment, un premier roman, c'est toujours, c'est toujours celui qui reste dans le cœur à un moment donné. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, vous pourrez croiser Dominique également au Salon du Livre de Limoges, le 13 et 14 mai, dans notre région. Donc, n'hésitez pas, aller à la rencontre et nous, on va essayer évidemment aussi de vous organiser des petites rencontres ici dans d'autres endroits de la région Nouvelle-Aquitaine avec Dominique Lagrousse-Ampère pour venir justement échanger. Voilà, merci beaucoup Dominique d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Alain pour votre gentillesse.
Et à très très bientôt.
J'espère.
Allez, dans un instant, Stéphane Blancafort pour Tandem, Rufus pour HPI, Martin Mill pour DNA. On ne bouge pas, on revient juste après ça.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
J'ai perdu ton regard de vue, sans toi j'ai perdu noir. Éclaire-moi une dernière fois. Souvent, je valse trop vite autour de toi. J'ai peur du vide. Rattrape-moi et retombe-moi. En amour, mon amour, qu'est-ce qui se passe quand j'entends les tambours qui se lassent d'avoir trop joué?
reste pour demain. Mon amour, qu'est-ce qui se passe quand j'entends les tambours qui s'effacent d'avoir trop joué?
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on termine cette nouvelle saison de Tandem qui arrive demain sur France 3 à 21h10. Et quel plaisir de retrouver eh bien cette nouvelle saison inédite, saison 7 déjà, avec Stéphane Blancafort qui est avec nous chaque lancement. On a soit toi, soit Astrid. Un bonheur de vous avoir et de nous emmener dans vos aventures tous les ans comme ça, mon cher Stéphane.
Mais c'est un vrai bonheur aussi d'être avec vous pour pouvoir lancer la nouvelle saison à chaque fois. 84 épisodes.
En compte, quelle belle histoire.
Ouais, ça fait 7 ans que ça dure. Qui l'eût cru ?
Et un succès qui se dément pas.
Non, c'est clair. Ouais, chaque fois un peu plus de gens qui regardent. On avoisine les 5 millions. Un peu plus même, je crois, parfois. Donc c'est bien, on est fiers, on est heureux de ce succès. Et quand on se retourne sur les 7 années, je repense aux pilotes, les deux premiers épisodes qu'on a tournés, Christophe Duchamp et Emmanuel Rigaud. Ça me paraît tellement loin et en même temps... il n'y a que 7 ans, quoi. Et on a fait tout ça, tout ce chemin. C'est joli, moi j'aime bien. J'aime bien l'histoire.
Ben oui, puis il y a un cap là à passer avec ces 7 ans, 12 nouveaux épisodes, parce que la particularité aussi de Tandem, c'est qu'on a le droit à un rendez-vous avec au moins 6 soirées tous les ans. Ça, c'est vraiment chouette. C'est un vrai cadeau que vous faites à tous les fans de la série. C'est de pouvoir vous retrouver sur la longueur, mine de rien.
Ouais, je crois qu'on a une des rares séries à proposer 12 épisodes sur une saison, quand les autres sont à maximum 10 ou 8. Ce qui est déjà pas mal. Mais en tout cas, ça permet de rentrer dans le quotidien des gens pendant, comme vous le disiez, 6 semaines avec 2 épisodes diffusés chaque soir. Et c'est un chouette rendez-vous familial à chaque fois. Donc le printemps est encore plus joyeux.
Cette saison va-t-elle voir enfin ? Parce que alors, les fans demandent tous, est-ce que Paul et Léa vont enfin se remettre ensemble ? Est-ce que c'est une question à laquelle va répondre cette saison ou pas ? Sans nous dire s'ils vont se remettre ensemble, évidemment, pour pas gâcher notre surprise.
Est-ce qu'ils ont jamais vraiment été séparés ? J'en suis pas persuadé. Je crois qu'ils ont toujours été plus ou moins ensemble, déjà dans le cœur et dans la tête. Après, techniquement, se remettre ensemble quand on a 50 ans et qu'on a déjà fait un bout de chemin l'un sans l'autre, c'est peut-être compliqué, à nos âges, de se remettre ensemble. Techniquement dans un même appartement. Donc je sais pas, mais en tout cas ils s'aiment profondément et ça on le sait. Est-ce qu'il y aura un rapprochement ? Oui, de toute façon, puisqu'il est tant attendu et qu'on va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Donc il y a un rapprochement après se mettre ensemble, techniquement je sais pas. En fait, je sais pas. Pour l'instant, je peux pas vraiment.
On verra au fur et à mesure de cette saison. J'aime bien, tu nous ménages un peu le suspense. Il va y avoir encore des enquêtes, bien évidemment. Est-ce qu'on aura un fil rouge un peu tout au long de cette saison qui nous attend, de cette saison 7, Stéphane ?
Oui, toujours, puisque c'est quand même le principal intérêt de la série aussi. On sait que les enquêtes sont un peu un prétexte à ce que les personnages se retrouvent, s'échappent, vivent des aventures aussi personnelles. Donc oui, fil rouge, forcément une évolution dans le relationnel, même avec leurs enfants. On aura aussi du fil rouge avec les autres protagonistes de la série. Donc voilà, on s'intéresse aussi à leur vie privée, ce qui est vraiment bien. J'ai l'impression que cette série est plutôt chorale, mais pas tourner autour du tandem. Et ce qui nous a plu avec Astrid dès le début, c'est que effectivement ça regroupait vraiment tout le monde et on s'intéressait vraiment à tous les lieutenants et capitaines qu'il y avait autour, les enfants, les conjoints et conjointes de chacun. Et c'est ça qui est bien, quoi, c'est que c'est varié. Ça permet plusieurs histoires aussi.
Ça crée des liens, évidemment, de passer comme ça 7 saisons ensemble avec une équipe technique, avec évidemment tous les autres comédiens qui entourent. Quand on se dit, ça sera peut-être la fin, parce que c'est jamais d'une saison sur l'autre si ça sera reconduit. Et encore en l'occurrence, là, on peut jamais savoir effectivement si on tourne les ultimes minutes ou pas. Qu'est-ce qu'on se dit avec l'équipe, avec les autres comédiens à ce moment-là ?
C'est vrai qu'on sait pas de quoi ce sera fait demain. Déjà, si le projet continue, c'est une bonne chose. Il peut s'arrêter aussi, mais nous, on peut ne plus être là. Enfin, voilà. Donc, on a conscience de ça aussi, toujours. Et c'est pour ça qu'on se régale à chaque fois qu'on se retrouve, parce qu'on profite du moment qui nous est donné pour partager le meilleur ensemble, quoi. Et c'est ce qui nous a beaucoup rapprochés, tous. Que ce soit avec Astrid ou avec Pierrick, Alban, Tatiana, Baya quand elle était là, les enfants aussi, Titouan, Sarah Cheyenne, François-Dominique Blin ou Patrick qui joue le colonel. On arrive à se raconter nos histoires personnelles aussi, on prend le temps de ça parce que justement on sait pas de quoi demain sera fait. Voilà, on est tourné vers l'essentiel aussi. On aime jouer ensemble, mais on aime beaucoup s'écouter et se parler de nos vies perso aussi. C'est important. Ça nous nourrit beaucoup. Mais en fait, on s'aime vraiment beaucoup tous, quoi.
Parce que c'est vrai que vous vous croisez sur les plateaux, mais il y a aussi une particularité quand même sur Tandem, et on le répète encore, c'est que vous mettez 12 épisodes en 3 mois en boîte, et ça veut dire vous tournez deux fois plus vite que les autres, et ça veut dire aussi que du coup ça tourne à deux équipes en permanence, avec des équipes à un endroit, à un autre, où vous croisez des fois plusieurs plateaux dans la même journée, enfin c'est un rythme quand même malgré tout qui est hyper intense à chaque fois que vous faites des sessions de 4 épisodes sur un mois, quoi.
C'est très sportif, et physiquement et intellectuellement, ouais, donc ça demande... vraiment une concentration de tous les instants, une certaine rigueur, c'est ce qui nous empêche pas de travailler vraiment avec de la bonne humeur et en aimant s'amuser de toute façon, c'est ce qui permet d'alléger aussi le travail, parce qu'il est complexe. 4 épisodes cross-bordés en un mois, c'est quand même assez monstrueux, parce qu'il faut quand même se souvenir de qui fait quoi, quand, comment, qui a tué qui, où, pourquoi, où était la cousine, machin, sachant qu'on tourne les 4 épisodes donc en même temps, dans le désordre. Et qu'en même temps, on a le fil rouge avec nos humeurs qui évoluent, qui nana. Donc, on a besoin de savoir à quel moment on en est de l'épisode. Double plateau, oui, parce que deux réalisateurs qui chacun s'occupent de deux épisodes. Et voilà, mais on a des scripts qui nous remettent à chaque fois dans le droit chemin, qui nous disent ce qu'il y a eu avant, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas tourné, nani, nana. Donc, voilà, on a une rectif à chaque fois. Mais quand on sort de ces sessions-là, qui durent 20 jours effectifs, un mois, on est vraiment rincé, quoi. Intellectuellement et physiquement, c'est et puis avec nos âges qui commencent à avancer aussi, il y a une fatigue qui
ça y est. Alors il y a un personnage, écoute, sur Tandem, il y a un personnage quand même qui est à part entière aussi dans cette série, c'est Montpellier, qui vous accueille depuis 7 ans maintenant, et la ville de Montpellier fait partie intégrante vraiment de la série, hein, malgré tout.
C'est un beau rendez-vous à chaque fois. Puis alors moi, symboliquement, il y a quelque chose qui est fort, c'est que j'ai fait mon premier conservatoire ici, j'avais 18 ans à Montpellier, de se retrouver dans un rôle principal d'une série qui marche bien des années après, c'est quand même fou. Donc cette ville, elle a une résonance particulière artistiquement et humainement à mes yeux. Donc voilà, c'est à chaque fois un rendez-vous vachement agréable, et puis elle est magique parce que non seulement il y a le cœur de ville qui est puissant et qui est divers, mais on a aussi une nature autour qui est hyper généreuse, quoi, que ce soit la pampa, la montagne ou la mer.
Une chaise de décor incroyable.
C'est incroyable, on fait ce qu'on veut et ça pourrait durer encore pendant des années, quoi. On n'aurait encore pas tout vu.
On sait que la saison 7 sera la dernière. Stéphane, qu'est-ce que tu aimerais, en tout cas, pour la suite, un peu à la manière de Candice Renoir, si dans sa forme actuelle c'est fini, est-ce que vous aimeriez, en tout cas, tous revenir pour des rendez-vous ponctuels, comme ça, pour des films, des téléfilms événements?
Ouais, ça serait pas mal de donner des rendez-vous sur du 90 minutes. Déjà, pour nous, à l'intérieur du projet, le travail serait pas le même. On serait pas sur du double plateau. On travaillerait sur un 90 avec un seul réal et un seul épisode, avec 4, 5, 6 protagonistes. Et pas 25. Donc au niveau de la somme de travail, ça serait quand même un peu plus allégé. Donc oui, ça serait plus confort, ça serait nouveau. Donc ça permet de rebondir aussi et de s'en étonner peut-être aussi, de pas tomber dans une espèce de routine qui peut être dangereuse, qui est pas du tout le cas pour l'instant. Mais ouais, de la nouveauté dans ce sens-là. Ouais.
Les projets, Stéphane, pour terminer. Théâtre, cinéma, télévision, est-ce qu'il y a un rôle particulier que tu aimerais qu'on te propose si on avait des producteurs, des réalisateurs qui nous écoutent là?
J'aimerais bien quelque chose qui me change vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire. En tout cas, j'ai envie d'être surpris, j'ai envie d'être secoué, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, c'est évident. Même si on m'a proposé des rôles très différents jusqu'à présent, il y a le Meurtre en Champagne aussi où c'est un rôle très différent. Tropic Criminel où je joue un assassin. Donc on est plus avec Paul Marshall, flic gentil, mais j'ai envie d'action aussi. Ouais, j'ai envie de ça, un peu plus de danger peut-être. Ouais, ouais. Un rôle en particulier, j'en sais rien. Peut-être un flic un peu plus roots, un cowboy, quelque chose comme ça, quoi. À l'américaine un peu, ça serait pas mal peut-être. Ouais.
Voilà, Olivier Marchal, si tu nous écoutes. C'est un peu le spécialiste du genre, notamment en France. Bon, merci en tout cas Stéphane d'être venu nous parler de Paul Marchal. C'est toujours un plaisir en tout cas de démarrer et de suivre ces saisons de tandem avec vous tous. Et on va suivre avec attention évidemment ces 12 nouveaux épisodes, comme le public, j'imagine, sera au rendez-vous demain soir sur France 3.
Inch'Allah, j'ai envie de dire.
Merci à toi et à très bientôt.
Merci infiniment, à bientôt.
Inédit, mardi sur France 3.
On réfléchit à demander une mutation.
Qui on ?
Inès et moi.
Un tandem au bord de la rupture. Mais face à une affaire hors norme...
Je frappe où je veux et quand je veux.
Stéphane Blancafort et Astrid Veillon, plus soudés que jamais.
C'est vraiment pas le moment, mais sur une grosse affaire là.
Le mail du tueur a été envoyé depuis la gendarmerie.
Je peux pas imaginer qu'un de mes hommes ait tué la combe et qu'il ait tenté de faire exploser un de ses collègues. Je peux pas l'imaginer.
Et si cette affaire repoussait les limites de l'imagination ? Tandem, deux épisodes inédits, mardi à 21h10 sur France 3.
Allez, c'est le retour d'HPI, saison 3 inédite, c'est l'événement évidemment sur TF1. Et c'est Rufus qui va être avec nous justement pour ce lancement exceptionnel. Bonjour Rufus.
Bonjour, vous savez que j'ai adoré l'idée de faire cette série.
Ça m'étonne pas parce que mais c'est tellement un succès, mais on n'avait pas vécu de succès pareil à la télévision depuis peut-être 10-15 ans pour TF1.
Et vous savez comment ça se fait ? C'est que il y avait une bonne femme qui s'appelait Erin Brockovich. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Bon, c'est une femme qui existait réellement et dont Julia Roberts a incarné le rôle dans un film qui s'appelle justement Erin Brockovich. Et alors, l'histoire, c'est que c'est une petite bonne femme qui est vaguement secrétaire chez un avocat, plus ou moins moyen, plutôt moyen d'ailleurs. Et puis, en regardant les dossiers, elle tombe sur une affaire qui lui semble hallucinante. Des tas de gens sont empoisonnés par la nappe phréatique qui est remplie de produits toxiques. Les gens meurent, les gens sont malades, etc. Et puis, y a pas d'inquiétude, personne poursuit le truc. Alors, elle s'est dit quand même. Alors, il faut dire qu'elle, c'est son petit salaire. Hein, et elle fait ça pour nourrir ses enfants. Et en plus, elle doit trouver quelqu'un pour garder les enfants. Alors, les enfants sont gardés par un type qui passe à moto. Et ce type, dans le film, c'est moi. Pas dans le film original.
Dans la série HPI, c'est Monsieur Henri.
Voilà, Monsieur Henri. Monsieur Henri garde les enfants. Alors, c'est un voisin, plus ou moins... Ouais, un vague voisin, plutôt gentil, un espèce d'idiot, quoi. Un idiot utile, voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est génial, parce que ce film, Erin Brockovich, je l'avais vu plusieurs fois avec ma fille, quand elle avait une dizaine d'années, elle avait adoré l'idée qu'une petite bonne femme peut se secouer et remuer le monde entier. Bon, dans la réalité, je ne sais pas si ça s'est passé, mais dans le film, en tout cas, dans le film avec Julia Roberts, ça se passait. Donc, depuis ce temps-là, Julia Roberts est devenue mon héroïne, et tout d'un coup, voilà que...
Audrey Fleurot est arrivée.
Audrey Fleurot joue ce rôle et je la trouve géniale. Je trouve qu'elle correspond tout à fait au personnage. Elle est inventive, elle a peur de rien, elle accueille les choses inattendues, elle se bloque pas, elle y va toujours. Alors, évidemment, ils la mettent dans les pires difficultés pour qu'on voit comment elle va s'en sortir, mais elle s'en sort toujours. Et donc finalement, j'adore cette histoire. Voilà. Alors pour l'instant, je vais pas vous dire les secrets parce que j'ai pas le droit de vous les dire, parce que sinon vous allez pas voir le film, il faut y aller.
Enfin, oui, il faut voir les deux premiers épisodes justement qui arrivent jeudi sur TF1. Et c'est quand même un peu l'événement parce que c'est tellement attendu aujourd'hui.
Mais oui, mais attendez, attendu pourquoi ? Il y a eu combien de gens qui sont venus voir ça ?
Voilà, c'est plus de 10 millions, c'est incroyable le succès.
Ouais, ouais, 10, 12, 13 millions, ouais, ouais. Mais ça arrive pas souvent pour les séries françaises, ce truc-là, non ?
Là, c'était pas arrivé depuis 15 ans, hein, quasiment, hein, pour une série. Hein.
Bon, en tout cas, j'ai eu de la chance parce que, vous voyez, ma chance. Ma chance, c'est que je suis souvent dans les numéros gagnants. Je suis pas le gagnant, mais je suis dans le film qui marche, comme Amélie Poulain, ou, vous voyez, des films qui font le tour du monde. Moi, je joue un petit peu là-dedans, je suis le grain de sable, vous savez. Ah, mais quelquefois, le grain de sable est important.
Et il peut porter chance, la preuve.
Ben oui, c'est ça. Donc, encore une fois, j'ai accepté ça parce que c'est une histoire qui avait du cœur. Et puis, ben, finalement, voilà, ben, ça me poursuit. Je pensais faire un épisode et puis ça y est, on est déjà au troisième. Je sais pas comment ça va finir. Peut-être que mon rôle va changer parce que je suis un gentil, mais peut-être que je deviendrai un méchant. Hein.
Et oui, Et puis qui sait, peut-être que dans la saison 3, il va être impliqué dans des affaires. On ne sait pas, monsieur Henry. On peut tout imaginer.
Bah, d'autant qu'il lui arrive des drôles de trucs. Là, maintenant, monsieur Henry, il prête sa maison à la dame. Alors, il habite avec la dame. Bon, d'accord.
Je sais que Morgan Alvaro n'est pas facile à vivre. Faut la suivre.
Morgan Alvaro, elle a surtout des enfants très turbulents. Et puis elle n'est pas facile à suivre parce que là, j'ai l'impression qu'elle a mis le propriétaire en difficulté. Enfin, je vous en dis pas plus.
On va découvrir ça. En tout cas, vous vous amusez beaucoup à tourner cette série qui a révolutionné un petit peu, effectivement, la case avec un ton complètement différent aussi. C'est ce qui vous a plu en premier quand vous avez lu les scénarios ?
Ben oui, c'est-à-dire que j'ai surtout fait connaissance avec Audrey et je me suis rendu compte qu'elle est le personnage. Elle est comme ça dans la vie. Quand les dialogues arrivent, ben elle reprend les dialogues, elle les fait à sa sauce et puis finalement c'est elle qui parle. Alors là, franchement, je crois que les gens y voient sur l'écran une vraie personne.
Et évidemment, ça transpire la sincérité et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Des projets pour 2023, Rufus ?
J'ai toujours 5 projets en route et c'est un 6e projet qui se fait. Alors je ne vais pas vous dire lesquels c'est. Parce qu'à chaque fois, j'ai ça, et puis c'est un autre truc qui arrive au dernier moment. Voilà. Donc ça a été toute ma vie comme ça. Et j'accueille très volontiers les choses inattendues, les choses auxquelles j'avais pas pensé.
On va terminer par peut-être un souvenir de tournage, d'un tournage d'une scène avec justement Audrey.
Ben, je sais pas s'il est passé cet épisode où on essaie de débarrasser une chambre d'un matelas, on descend le matelas dans les escaliers, puis on est presque arrivé en bas, mais on n'y arrive pas, ça marche pas, le matelas est trop lourd, etc. Je propose qu'on remonte le matelas pour le passer par la fenêtre. C'est une connerie, mais ça leur a plu.
Comme quoi, faut tester des choses. Merci beaucoup, Rufus, d'avoir été avec nous. HPI, le lancement de cette 3e saison, c'est jeudi sur TF1.
Eh ben, je vous en prie, merci.
Vraiment que vous arriviez à garder un travail. Vous avez d'autres compétences qui ne sont pas inscrites dans votre dossier.
Je vais faire du patin en arrière.
Et puis sinon, je suis HPI.
Accrochez-vous, on part en filoche.
Brigadier Guichard, notre nouvelle recrue.
Ça ne marche pas du tout, la pâte à fixe.
Je voulais faire des enquêtes. Il fallait rester chez les flics, non ?
J'ai trouvé ça dans mon bureau, c'est à vous ?
Non.
Qui est à l'appareil ?
Il vous a menti.
Mais qu'est-ce que tu fous ?
Mais c'est mon corps, moi, une hypercolante, j'arrive pas à m'en débarrasser.
Passe-moi ce téléphone. Il va falloir me laisser bosser, là, ok ? C'est clair ?
Morgane ne dit jamais merci.
Vous vous bougez un peu, j'ai pas l'impression que vous jouiez au taquet.
Elle a un talent inné pour foutre tous les gens qui l'entourent dans la merde.
Vous avez volé un bijou à casse-mélange chez la victime ? Mais non ! Non et non !
Qui, dans cette pièce, est encore prêt à se mouiller pour l'aider ?
Jeudi 11 mai, Morgane est de retour sur TF1.
Allez, notre coup de cœur est consacré à Demain nous appartient, la série que vous suivez tous les soirs, évidemment, votre feuilleton quotidien sur TF1 à 19h15. Et vous savez qu'on aime bien mettre les personnages à l'honneur régulièrement dans cette émission. Et aujourd'hui, on va mettre le personnage de Gabriel, justement, qui nous fait beaucoup rire en ce moment avec Martin Mille, qui est notre invité. Bonjour Martin.
Bonjour à tous, merci de m'avoir invité.
Merci d'être là. Martin, double actualité, puisque évidemment on te retrouve à l'affiche avec en ce moment beaucoup de comédies dans Demain nous appartient te concernant et concernant ton personnage et celui de Nour. Ça fait du bien de voir de la comédie dans Demain nous appartient, j'avoue, hein, ça crée quelques soupapes. Et t'es en tournage aussi pour les Mystères de la Marée du côté de la Charente-Maritime. Donc c'est bien rempli en ce moment et surtout que les épisodes que t'as tournés dans les 2 derniers mois de DNA sont en train d'arriver en ce moment à l'écran pour notre plus grand plaisir.
Alors c'est vrai qu'on a eu du coup pas mal de comédies qu'on a tournées il y a quelques mois qui est diffusée en ce moment. On s'est plutôt marré avec Nour. On a encore pas mal de comédies qui va arriver parce que bon, je peux pas vous en parler maintenant, mais j'ai les souvenirs de tournage et on a pas mal de comédies qui arrivent. C'est vrai que dans un programme comme Demain nous appartient, forcément, ça fait des fois un petit peu de bien parce qu'il faut faire respirer un peu le téléspectateur entre toutes les terribles histoires qui peuvent arriver à 7. Mais voilà, on a pas mal de comédies qui arrivent et forcément, moi, ça me permet aussi de jouer autre chose par rapport au Mystère de la Marée. Pour le coup, je suis pas du tout sur un personnage de comédie.
Alors, Martin, il faut dire que t'es un des seuls rescapés de la famille Guéot-Lazari, hein, en quelque sorte. Comment t'as réussi ce tour de force ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une vraie affection du public pour ce personnage. Toi, tu le ressens dans la rue quand les gens te croisent, quand les fans de la série viennent te voir, par exemple ?
Bah, évidemment, ouais, je le ressens parce que de toute façon, les fans de la série sont à l'affût avec tout le monde et je crois qu'ils Je crois que malgré tout, ils affectionnent tous les personnages. Et je crois que malgré tout, ils affectionnaient aussi particulièrement ma famille. Juliette Tressani, Marie-Catrix, Théo Cossé, Dembo qui lui allait sur Ici tout commence, mais qui faisait partie de la famille finalement sur la fin. Je pense pas que je sois plus aimé que les autres par les fans, évidemment, mais je pense que voilà, c'est des histoires simplement qu'on contrôle pas. C'est pas nous qui avons les manettes.
Mais les auteurs étaient peut-être plus inspirés par le personnage de Gabriel, lui faire vivre d'autres choses, en tout cas.
Ouais, c'est vrai, me faire vivre d'autres choses peut-être, mais c'est surtout que moi après je suis arrivé, j'étais le dernier de la famille à être arrivé à 7, bien que Gabriel était là avant, mais c'était pas moi qui le jouais à l'époque.
Sous les traits d'Arthur Legrand qu'on salue quand même, on peut le dire aussi.
Voilà. Et donc évidemment, non, je saurais pas répondre à cette question de est-ce que c'est les fans qui ont joué un rôle là-dedans, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis très reconnaissant parce que les fans sont toujours derrière moi. Malgré tout, je vois aussi sur les réseaux qu'ils sont toujours derrière la famille et qu'ils aimeraient bien entendu les revoir parce que je crois que ça leur a un petit peu crevé le cœur aussi de voir la famille Guéo et Lazzari se déchirer à l'époque. Mais voilà, je saurais pas en dire plus parce qu'à mon avis, c'est des choses qu'on contrôle pas et puis c'est plus haut dans la hiérarchie, dans les bureaux que ces choses-là se décident et on n'a pas la main mise sur ces décisions-là.
En tout cas, le public, lui, il est toujours à fond, même un an et demi après, et espère toujours évidemment le retour de Juliette, de Marie-Catrix, de Théo Cossé. Voilà, c'est des personnages en tout cas qu'on aimerait bien revoir dans Nous nous appartient, et on en profite pour lancer un appel en tout cas. Faites revenir cette famille, voilà, qu'on aime tant, en tout cas, y compris dans notre émission. Alors il y a beaucoup de scènes de comédie là, on peut dire, hein, les derniers jours, on a vu, hein, on va dire un Gabriel qui a pris des cachets qu'il n'aurait pas dû prendre pendant un certain temps. Et il va devenir un peu hypochondriaque, mais dans le sens voilà, de sa vie intime, on va dire, en quelque sorte. Hein.
C'est ça. Bon, de toute façon, il a toujours été un peu stressé. Hein, le Gabriel, ça a toujours été un petit peu stressé, que ce soit au niveau du ménage ou maintenant, voilà, il est un peu hypochondriaque. Mais voilà, ça reste de la comédie, ça reste léger, il n'y a rien de grave. On a essayé de traiter le sujet avec le plus de légèreté possible, parce que finalement, bah, voilà, c'est pas très grave ce qui se passe, quoi. Donc j'espère que ça fait rire le téléspectateur et qu'il passe un bon moment et qu'on lui permet de souffler un petit peu aussi entre les grandes arches qui se passent sur Demain nous appartient.
Ouais, on rit à ses dépens, le pauvre Gabriel, j'avoue. Et doit y avoir des scènes où vous avez du mal à garder votre calme tous les deux avec Saël de Figueredo, qu'on embrasse aussi, mais franchement, c'est Sex Friends que vous jouez tous les deux. C'est très drôle, malgré tout. Il y en a un, c'est clair, on le voit dans ses yeux, c'est l'amour transi de Nour, et l'autre qui veut pas se l'avouer finalement, mais qui est autant amoureuse, j'ai l'impression.
Voilà, finalement, c'est un petit peu ça ce qui se passe. Ça fait bientôt un an, hein, qu'on se cache derrière cette idée de Sex Friends, mais que finalement, c'est qu'une idée cachée parce qu'il y a plein d'autres choses derrière qui s'animent en nous. Mais voilà, ce que je peux dire en tout cas, c'est que pour tous les téléspectateurs et les fans qui attendent un dénouement, que ce soit triste ou heureux, qu'il se passe quelque chose, ce que je peux leur dire, c'est que il va se passer quelque chose et qu'on va arrêter de tourner autour du pot, voilà, comme on fait depuis un an et demi bientôt. Là.
Vous allez rentrer dans le vif du sujet.
Voilà.
C'est bien dit, ça, en tout cas. Il y a eu une scène particulière avec Saël que vous avez eu du mal à mettre en boîte parce que vous êtes parti sur une crise de fou rire. Vous arrivez à garder votre calme?
Alors, avec Saël, ça fait longtemps qu'on tourne ensemble, hein, donc à force.
Vous connaissez par cœur en plus tous les deux quasiment maintenant.
Ouais, ben on se connaît très bien, c'est clair. À force, en fait, on a beaucoup de bêtises à jouer ensemble tous les deux, hein, et que ce soit les scènes de proximité. C'est vrai que au début, c'est tout le temps un peu gênant quand on n'a jamais fait ça, de se retrouver dans des scènes un petit peu intimes. Finalement, avec Saël, au bout d'un moment, je me souviens d'une scène en particulier là où en fait on tournait en plein été. Il faut savoir que le décor dans lequel on tourne, nous, notre coloc, est mal isolé, ce qui veut dire que l'hiver il fait très froid et l'été il fait très chaud. Et on avait une scène assez intime. Et c'était en plein été. Et il faut savoir que je transpire beaucoup. Et donc, petite pensée pour Saël qui a été vraiment très, très gentil et qui a rien dit. Mais c'est vrai que on devait être intime et que la pauvre, je suais, quoi.
La grosse goutte. Bon. En tout cas, Les Mystères de la Marée, tu y joues le rôle d'Enzo. Donc là, c'est un autre personnage. On n'est pas dans la comédie puisque là, c'est un polar qui est en train de se tourner dans lequel tu joues, mon cher Martin.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai passé les castings il y a 2 mois de ça. Je suis très heureux déjà de pouvoir le tourner parce que c'est vrai que avec DNA, on a des emplois du temps des fois qui sont compliqués à se mettre en place. Surtout que là, on est sur un tournage qui se passe presque à Rochefort. Demain nous appartient, ça se tourne à 7. On est sur une période de grève, donc pour moi, c'était un peu compliqué de faire les allers-retours parce que.
Je vais faire bien attention parce que la prochaine question, ça va être Team Atlantique ou Méditerranée. Il faudra que tu répondes. Réfléchis un peu.
Et j'y répondrai après, mais ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, je suis, je suis, je suis honoré de pouvoir faire ce tournage et de pouvoir montrer aussi que malgré le fait que je suis très bien sûr Demain nous appartient, on nous ouvre aussi d'autres portes et c'est pas parce qu'on est sur Demain nous appartient qu'on est condamné à tourner sur Demain nous appartient et qu'on n'aura pas accès à d'autres tournages. Voilà, donc c'est juste pour montrer que finalement c'est possible et je remercie encore les deux productions qui ont tout fait pour que ce soit réalisable et pour pouvoir s'accorder sur les dates de tournage.
Oui, et puis d'ailleurs, tu as retrouvé une comparse, d'ailleurs Louise Marion, sur le tournage. Deux comparses de Demain nous appartient sur le tournage des Mystères de la Marée. Donc ça, c'est quand même assez drôle aussi de vous retrouver là comme ça.
Ouais, bah c'était assez drôle parce que bah Louise, en fait, je savais pas du tout qu'elle tournait sur les Mystères de la Marée. Et en fait, on s'est croisés en arrivant à la résidence où on est logé il y a deux semaines. Et on s'est retrouvés en fait nez à nez en bas de la porte en se disant mais qu'est-ce que tu fais là ? En fait, c'est, ah, mais t'es dessus? Ah, mais moi aussi? Ah, mais super! Mais du coup, bon, il se trouve qu'on tourne pas ensemble parce que dans le scénario, on n'a pas grand chose à faire ensemble, mais ça fait plaisir de voir que finalement tout le monde fait son petit bout de chemin et j'espère qu'on se recroisera tous encore sur d'autres tournages dans les années à venir, quoi. Et Jérémy Barrière aussi, qui joue le rôle de Lucas, qui lui était venu pour une intrigue sur Demain nous appartient. On s'était pas rencontrés à l'époque, mais quand on s'est rencontrés pour les lectures avant le tournage, en fait, on a fait le lien et je me suis rendu compte que sa tête me disait quelque chose, en fait, c'est parce qu'il avait fait une intrigue sur DNA.
Plein de belles choses en tout cas. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur Enzo ?
Eh ben Enzo, je pense que c'est un personnage sensible, c'est un personnage qui vit les choses à fond, peut-être qui a du mal à s'avouer certaines choses aussi. Je sais pas après ce que je peux dire, ce que je peux ne pas dire par rapport au personnage, mais ce que je peux dire c'est que ça me fait vraiment plaisir aussi de pouvoir jouer autre chose, jouer quelqu'un d'autre et travailler du coup sur une autre psychologie et un autre caractère.
Est-ce que tu as d'autres projets, Martin ? Pour la suite.
Pour l'instant, je suis focus sur les Mystères de la Marée et sur Demain nous appartient. Les autres projets qui sont en cours, j'avoue que je préfère rien dire pour l'instant parce que on sait bien que dans ce milieu et dans ce métier, de toute façon, il y a plein de choses qui se font puis qui se défont. Donc je préfère pas m'enflammer. Pour l'instant, je suis très content d'avoir deux tournages en même temps, ce qui est quand même une opportunité et un privilège. Donc je me cantonne à ça et je vous parle de ça pour l'instant. On verra pour le reste plus tard.
Ça, tu reviendras. Tu vas pas échapper à la question. Alors, Team Atlantique ou Méditerranée ?
Alors,
les Mystères de la Marée, là, t'as tourné vraiment, mais limite en pleine mer, hein. T'étais pas loin.
Alors, c'est compliqué parce que j'ai fait toute ma jeunesse et j'ai toujours vécu dans la Drôme. Donc, j'ai quelques attaches au sud, mais faut savoir que ma mère est bretonne.
C'est cornélien là.
Voilà, moi depuis tout petit, en fait, je passe tous mes étés à Lorient. Donc, choix de cœur pour mes grands-parents et pour ma famille, je vais dire l'Atlantique et les Côtes d'Armor surtout. Mais c'est vrai que le sud il fait bon vivre aussi quoi. Je suis un peu en dilemme cornélien, c'est ça, mais pour les choix de la famille et du cœur, je vais dire Atlantique.
Bon, et ben voilà, comme ça c'est fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On te retrouve tous les soirs évidemment pour nous faire rire un peu, cette soupape qui fait du bien en ce moment côté de Sahel, de Figueiredo et de toute l'équipe de Demain nous appartient. 19h15 du lundi au vendredi sur TF1 et on te retrouve bientôt sur France 3, probablement à la rentrée entre septembre et novembre dans les Mystères de la Marée qui se tournent en ce moment. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était un plaisir de pouvoir répondre à vos questions et à bientôt.
Et à très bientôt Martin, merci.
J'ai planqué un truc chez elle et je l'ai mis au défi de le retrouver.
Est-ce que tu as enfin trouvé ?
C'est ton petit mot.
Mon petit mot.
Donc, it's a date.
Un petit mot ? Quel petit mot ?
C'est son ex qui a dû lui laisser un truc.
Bah faut que tu y ailles à sa place.
Viens, on immortalise.
Allez.
Maman, les flics savent qu'il y a une voiture ancienne impliquée dans l'accident. Exactement comme la tienne. Qu'est-ce que t'es en train de me dire ? Que c'est moi qui ai renversé cet ado ?
Je suis désolé, mais la peinture de votre véhicule correspond à celle retrouvée sur les lieux de l'accident. C'est impossible.
Pourquoi tu prends sa défense comme ça ?
Elle était avec moi ce soir-là.
Allez, dans un instant, Mélissa Drijard et Émilie Caen pour la sortie du film Hawaï débarque dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
On avait des rêves, on avait l'essentiel. On pouvait refaire le monde avec rien de sensé. On voyait les choses en grand, on voulait trouver un sens. L'important c'était nous et ce qu'on allait faire ensemble. Pas de téléphone, rendez-vous au skatepark. Meilleure époque, de l'amour qu'on ne pèse pas. Rien dans les poches, des vieilles coupes au bol. On se passait des clopes, mais on se prêtait pas nos skates bas. Toujours à l'heure dans vos soirées. Toujours ailleurs chez nous, pas la peine. Ils apprennent tout le jour d'après. Quand maman voit ça, bah ça part en guerre. Oh la belle époque. Jamais sans les potes. Oh, oh, oh.
ne côtoie que des gens qui côtoient ma mif. Jamais de bif, toujours en équipe. Quand on répondait pas, on s'envoyait des whiz. Tu connaissais bien mes parents, toutes ces bêtises qu'on trouvait marrantes. C'était toi qui prenais, ouais ça m'arrangeait. Chortais que si la chambre était rangée. Génération Jam, c'est Vita. Le baladeur, c'était vital. Quand on allait aux courses, c'était pas pour les courses. Rayon, c'était inévitable. Oh la belle époque. Jamais sans les potes. Oh. On sentait tellement grand, on a grandi ensemble. C'était la belle époque, on n'était jamais solo. Pas de téléphone, mais j'ai gardé les photos.
Bah ouais.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui consacré au film Hawaï qui sort mercredi dans les salles. On va en parler avec Mélissa Drijard, sa réalisatrice qui est avec nous. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Merci.
Comment vous allez?
Eh ben, ça va très, très bien. Je suis très heureux de vous avoir, Mélissa. On avait eu l'occasion de se rencontrer pour Tout nous sourit. Votre précédent film, qui avait fait un très joli carton à l'Alpe d'Huez aussi. Et on s'était fait une promesse, c'est de se suivre. Et puis, bah, voilà. Chose promise, chose due. On est là pour Hawaï. Deuxième film qui sort mercredi dans les salles avec une troupe de comédiens. Mais tous plus dingues les uns que les autres. Franchement, Mélissa, c'est génial d'être entourée comme ça.
Ah, c'est une chance folle. Moi, c'était mon rêve de travailler avec eux. Donc c'est une fierté. Je me disais, mais ils me diront jamais oui, c'est pas possible. Et puis il y a eu le petit miracle, les planètes qui s'alignent. Et j'ai eu la chance de travailler avec eux. C'est pas simplement des super artistes, c'est en plus de bons camarades. Donc ça, c'est de la chance. Et on a eu de la chance.
Et on a senti vraiment cette générosité qui donnait vraiment tout, qui avait vraiment une... On sentait un effet de troupe assez dingue, hein, justement, même en regardant le film, finalement.
Bah, c'est vrai, parce que normalement, les films de bande d'amis, ce sont des gens qui se connaissent, qui écrivent ensemble, qui montent un film ensemble. Nous, en fait, bah, c'est le film qui nous a rapprochés. On s'est connus grâce au film. Et on s'est bien entendu, mais c'est vraiment... C'est comme gagner au loto, presque, de mettre 9 personnes sur une île. Et puis, le miracle opère et on s'entend tous très bien. Je ne le dis pas pour la promo, hein. C'est véridique. Encore aujourd'hui, on s'envoie des messages dans notre groupe WhatsApp tous les jours.
Mais ça se sent.
Voilà, donc ça, c'est assez joyeux.
On va planter le décor, Mélissa. Direction Hawaï, sur une île où une bande d'amis se retrouve tous les ans pour retrouver l'un des leurs qui s'est installé là-bas, dans un hôtel. Et sur cette île, à Hawaï, il va y avoir une alerte missile. Donc si, évidemment, la peur de mourir fait dire des belles choses au départ et qu'on s'aime, ben, à un moment donné, on se dit aussi des vérités. Sauf qu'au moment où... on annonce que c'est une fausse alerte. On a encore 8 jours de vacances à passer ensemble. Et ça, c'est pas simple. Hein.
En fait, quand on a lu cette histoire, on a trouvé ça vraiment incroyable. Et parfois, c'est la réalité qui dépasse la fiction.
Mais... Oui, parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Hein, faut quand même le spécifier.
Oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Et on trouvait l'histoire tellement triste et drôle. Mais surtout drôle, parce que ça finit bien quand même. Hein, c'est... les gens pensaient qu'ils allaient mourir, mais ils sont pas morts, c'était une fausse alerte. Et on s'est dit que c'était quand même un bon prétexte à comédie. Et voilà comment, en fait, on a démarré cette histoire, ce scénario, et comment on a regroupé toute cette équipe autour de ce sujet.
Et tourné sur l'île de la Réunion, et pas à Hawaï, justement. Pour un esprit de facilité, peut-être aussi, parce que voilà, la Réunion aussi, on sait, est très, très proche de la filière audiovisuelle, mais pas du tout, en fait.
Non, pas du tout, et heureusement que... Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a écrit, nous, le scénario, on était en confinement, premier confinement, et ensuite, bah, comme vous le savez, on pouvait plus voyager pendant longtemps, hein, pendant
oui.
Sauf pour, sauf si on avait des motifs impérieux, et donc, comme le travail, par exemple. Et puis, c'est une amie qui m'a soufflé, en fait, l'idée de la Réunion. Je savais pas, en fait, que les deux îles, même si elles sont à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, avaient la même histoire volcanique. Et donc, les paysages, c'est vrai, il y a énormément de ressemblances. Pas les villes, hein, mais les paysages.
Ouais. Ah, ça passe crème, hein, honnêtement.
Mais oui, complètement. Moi, quand j'étais en préparation du film, quand j'étais avec mes équipes, je confondais en photo, en fait, les décors de Hawaï, qui nous permettaient, en fait, de reconstruire les choses, et les décors de la Réunion. Donc, c'est pour vous dire à quel point les choses se confondent. On a réécrit pour qu'il y ait le plus de choses possibles à l'extérieur. Et tous les décors intérieurs, bon, bah, on les a construits grâce à notre merveilleuse équipe de décoration. Et donc, c'est une chance parce que on a pu tourner en France avec des équipes françaises, réunionnaises. C'était merveilleux. Puis, on se retrouve aussi avec des gens qui sont extrêmement accueillants, avec la joie de pouvoir tourner ce film. Nous, avec Vincent, mon co-auteur, quand il y a le Covid, on s'est dit, bon, ben voilà, on pourra jamais tourner ce film en plusieurs années. Aller à Hawaï, ça nous demandait de rester 14 jours en quarantaine au Mexique, de rester, enfin, c'était impossible, c'était mission impossible de mettre toute une équipe là-bas. Donc, ouais. c'est très joyeux. Et puis, les paysages à la Réunion sont fantastiques. Et alors, pour la petite histoire, ça qui est fou, c'est quand j'ai appelé Manu Payet, qui est quand même réunionnais.
C'est le régional de l'étape.
J'ai dit, écoute, eh bien, je pense qu'on va tourner. Il me dit, mais comment ça? Ah ouais? Je dis, non, on va tourner à La Réunion. Il m'a dit, mais oui, bien sûr.
Ben oui, évident.
Évidemment. Voilà, donc ça, c'était super.
Et oui, c'est son personnage hein, qui est dans le film, hein, qui est installé, qui reçoit sa bande d'amis tous les ans. Alors le casting, Bérénice Bejo, on a Elodie Bouchez, Émilie Kahn qu'on va recevoir dans un instant. Et Ayé Aïdara, Pierre Deladonchamp, également Nicolas Duvauchel, William Legbill, Manu Payet évidemment, et puis Thomas Semeca, franchement ils sont tous assez incroyables. Il y a trois personnages qui sont importants. Alors attention Mélissa, on va pas dire qui c'est, mais il y a trois personnages qui sont importants quand même. C'est Syphilis. Vous voyez où je vais en venir. Peste et choléra. C'est trois personnages qui sont importants dans le film quand même.
Bah, en fait, je vais quand même dire à quoi vous faites référence.
On en dit un tout petit peu sans en dire alors.
Voilà, on en dit un tout petit peu. Oui, en fait, c'est le couple de interprété par Thomas Simeca et Elodie Bouchez. Ils ont deux enfants. Et ils découvrent donc pendant cette alerte, pendant que tout le monde dit tout ce qu'il a sur le cœur, que en fait toute leur bande d'amis déteste en fait leurs enfants, qui sont réellement insupportables, et qu'ils les appellent donc peste et choléra. Voilà.
Voilà.
Et donc ça, évidemment, ça va être très compliqué pendant les vacances, les 8 jours de vacances qu'il en reste à passer ensemble, forcément. Et bah, la pilule passe pas, donc ça crée beaucoup de frottements entre les personnages.
Mais oui, dès qu'on touche aux enfants.
C'est assez savoureux.
Mais oui, surtout quand il y a syphilis qui vient se greffer à peste et choléra, évidemment, ça crée un traitement infernal.
Voilà. Syphilis, c'est la fille d'une autre.
Bon, enfin, en tout cas, ça mène vraiment à la comédie.
C'était un peu cathartique parce qu'on était, quand on était en confinement avec des amis, on avait la chance d'être à la campagne et c'était très inspirant parce que forcément, on est toujours énormément ses enfants et puis parfois un peu moins ceux des autres.
Bon, en tout cas, on va continuer à en parler de Hawaï. Ça sort mercredi au cinéma avec Émilie Kahn qui va nous rejoindre juste après la bande-annonce, justement, qu'on va passer maintenant. Mélissa, la suite, est-ce qu'il y a déjà un nouveau film en préparation? Sur quoi vous travaillez là en ce moment?
Je travaille sur un film qui n'est pas une comédie cette fois-ci, qui est Le Gang des Amazones. Et c'est l'histoire vraie de cinq jeunes femmes, amies d'enfance, qui ont braqué 7 banques dans les années 90. C'est vraiment un très beau sujet. C'est un film de braquage, un film de prison, un film de tribunal. C'est un sujet qui nous a passionnés. On ne s'est pas demandé s'il était drôle ou pas drôle. Comme chaque fois qu'on aborde une histoire, on l'aborde avec le ton qu'elle nous impose, finalement.
Eh bien, on va suivre ça, évidemment. On sera là aussi, du coup.
Ah, mais j'espère, hein. J'espère. Ben, on continue à suivre. Hein.
Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Mélissa. Et puis, si vous avez envie de voir le film Tout nous sourit aussi de Mélissa Drijard, vous pouvez bien sûr vous le procurer sur toutes les bonnes plateformes de VOD aussi en ce moment, avant de découvrir Hawaï mercredi au cinéma. Merci beaucoup et à très bientôt, Mélissa.
Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
Allez, tout de suite, la bande-annonce juste après, c'est Émilie Kang qui nous rejoint. On va parler du personnage de Sonia. À tout de suite.
Qu'est-ce qui se passe là? Une alerte missile? Vous êtes où là? C'est une alerte missile, faut pas rester là!
Tu sais où on peut se planquer, venez!
Je veux pas crever.
Je voulais vous dire, je suis fier d'être votre ami. Je vous aime.
Moi aussi, on t'aime.
Moi aussi, je vous aime.
Et toi, l'homme le plus extraordinaire.
Je t'aime, Anton. On aurait dû rester ensemble.
Pardon?
Vous avez été ensemble, hein?
Tout le monde était au courant, là?
On te supporte parce que t'es la femme de notre pote, mais on t'aime pas.
Je me souviens de ce que tu me faisais avec la crème chantilly. Je peux plus manger de chantilly sans penser à toi.
C'est vrai, vous aimez pas mes spécialités?
Si.
Moi, je suis une faux cul.
Tout le monde les hait ici, t'es mort.
Vous les appelez comment?
Est et choléra. Vous voulez pas qu'on se dise plutôt qu'on s'aime, hein?
J'ai envie de tricher partout. Non.
Allez, vous avez pas l'air au courant, là, mais c'était une fausse alerte. Elle démarre bien les vacances. Hein.
Et on continue à parler de Hawaï avec Émilie Kang qui nous a rejoint. Bonjour Émilie.
Bonjour tout le monde, bonjour Alain, ça va?
Eh ben oui, ça va très bien, je suis très très heureux de t'entendre. On va parler du personnage de Sonia, évidemment, on a planté le décor avec Mélissa. Hawaï, quelle aventure, on a l'impression que vous êtes tellement amusés tous ensemble.
Ah oui, c'est fou, on a passé, je crois que c'était un mois et demi, deux mois tous ensemble à La Réunion. Hein. Pardon, c'était pas Hawaï, c'est La Réunion. On a tourné et vécu dans un hôtel de luxe et en fait, on se connaissait très peu les uns les autres et la bande s'est formée quoi.
Et la chimie a passé.
En fait. Ouais, complètement.
Eh ben c'est ça qui est chouette. Alors on va parler un peu plus du personnage de Sonia. On a expliqué à nos auditeurs il y a quelques instants que c'est une bande d'amis qui se retrouvent tous les ans dans l'hôtel de l'un des leurs qui est installé à Hawaï. Mmh. Il y a une alerte missile. Évidemment tout le monde croit mourir et si on se dit des belles choses au départ, bah évidemment les vérités finissent par éclater jusqu'au moment où on annonce que c'est une fausse alerte et évidemment il va falloir passer encore 8 jours de vacances tous ensemble. Et c'est là que
le pitch est parfait.
Ah, ça, tu vois, et c'est là que ça se corse parce que moi qui ai l'habitude souvent de te voir quand on voit le personnage de Ségolène dans Ce qu'on a fait au bon Dieu. Évidemment, on est toujours dans des personnages un petit peu plus coincés. Et là, on assiste à une Sonia, mais complètement libérée dans ce film. Enfin, du moins, cette histoire d'alerte missile et la peur de mourir l'a complètement libérée.
Oh ouais, mais c'est génial. Enfin, moi, j'adore Sonia. J'aimerais être Sonia. Et je pense que d'ailleurs, les gens qui voient le film ont beaucoup d'empathie pour mon personnage parce que
on l'envie, je te dirais même.
On a tous envie un jour de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, de plus en avoir rien à faire, de rien, de jamais plus culpabiliser.
C'est ce qui t'a fait dire oui tout de suite à ce rôle justement, c'est d'avoir quelque chose complètement différent de ce que tu joues habituellement.
Oui, bien sûr, et puis vraiment, je trouve que ils sont tous extrêmement bien écrits, mais quand on m'a proposé ce rôle-là, c'est mon préféré, j'ai dit oui bien sûr, c'est celui-là que je veux quoi. Non, c'est vraiment génial.
Bon, est-ce qu'il y a un souvenir d'une scène particulière, Émilie?
Bah, il y en a plein parce qu'on a tellement tourné la scène qui est au début, en fait, où on pense qu'on va tous mourir et on se dit nos quatre vérités. On l'attendait sur 3 jours, donc ça a été très très éprouvant parce qu'il fallait se remettre dans les conditions tout le temps pendant 3 jours.
Et oui.
Il y a beaucoup de scènes comme ça qui. Bah, après, vous verrez, il y a une scène avec de la chantilly, on s'est beaucoup marré.
Ah oui, avec Ayé et Aïdara aussi.
Voilà, c'est ça. Mais tout était assez extraordinaire parce qu'on était déjà pas chez nous dans un décor magnifique. On avait tous des personnages à défendre, très bien écrits, très construits. Personne n'enviait personne. On avait tous des parcours et puis on se regardait travailler, jouer. Donc c'était moi j'avais un partenaire génial, Pierre Deladonchamp. On s'est rencontrés sur ce film. On s'adore.
Ouais, le couple fonctionne à merveille.
Ah ouais. Ça c'est vraiment ça a été le cadeau quoi.
Et puis il y a Syphilis quand même dans la famille aussi.
Il y a la pipe. Oui, bien sûr.
Parce qu'on parlait de peste, choléra et syphilis, hein, le trio infernal, syphilis. Il y a quelques instants avec Mélissa.
Absolument.
Et franchement, vous lui en faites voir aussi toutes les couleurs, en fait, à cette pauvre gamine.
Ouais, c'est ça, ouais, mais on se dit, enfin, moi, en tout cas, moi, je me dis, elle n'a plus rien à foutre. Je fais ce que je veux maintenant, je dis ce que je veux même à ma môme, quoi. Moi, ce que, les conventions.
Ce que j'ai aimé, tu vois, Milly, dans ton personnage, c'est que c'est peut-être celui qui a le plus changé au moment de cette fausse alerte où le personnage apprend qu'il va pas mourir, en fait, c'est une fausse alerte. Mais la peur de mourir, c'est le personnage qui l'a le plus changé par rapport aux autres. Elodie Bouchez, son personnage est toujours aussi perché après, mais le tien change littéralement.
Elodie Bouchez a un vrai aussi, je pense que c'est nos deux personnages ont des vrais, il y a un vrai tournant, quoi.
Ouais,
il y a,
tout à fait. Voilà. Mais toi, il est plus violent, quoi.
Oui, il est plus violent, mais je dirais Elodie aussi, elle rencontre Dieu, quoi, quand même. C'est une grande rencontre, ça bouleverse sa vie, mais je trouve que oui, c'est vrai, on est les deux ou on n'est plus pareil avant, et après l'épreuve, on n'est plus du tout les mêmes. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et c'est vrai qu'on dit tous, après cette épreuve dans la vie, je vais changer, ça va. Et souvent, c'est un peu plus difficile, c'est pas aussi radical, mais là, c'est génial, c'est très, très radical et très joyeux. Donc, tant mieux.
Alors, on disait tournage à La Réunion, j'imagine qu'il y a dû y avoir des moments d'anthologie entre vous tous, et j'imagine aussi, surtout, c'est que Manu vous a bien fait visiter son île quand même.
Manu, il était chez lui, donc oui, bien sûr, mais c'était super, on a très bien mangé, on a fait des grandes balades, on a profité quoi, à fond de l'île, et puis lui, c'est une star là-bas, hein, donc tout était très agréable, quoi. On a eu le droit de...
T'avais déjà tourné à La Réunion, pas Émilie?
Non, c'est la première fois que j'y allais.
Et alors, impression?
C'est magnifique. Il y a plein de religions différentes. Tout le monde arrive à vivre en communauté, enfin tous ensemble. Nous, on a adoré. Et puis il y a des paysages incroyables. On a fait des grandes randonnées. On est allé dormir dans des cirques. Ce métier, il est magnifique pour ça. Hein. Quand on fait des beaux films, qu'on voyage avec des gens formidables. Bon.
Bah oui.
Merci.
Bah oui, quoi de mieux.
Merci.
Bon, les projets, Émilie, pour la suite.
Les projets. J'ai un épisode des Petits Meurtres qui va sortir là la semaine prochaine.
Ouais.
D'Agatha Christie sur France 2. Et puis après, je vais tourner. Ah, j'ai aussi Clémenceau et Marguerite, un téléfilm pour France 2 qui va sortir avec Pierre Arditi, où c'est la vie de Clémenceau avec son dernier amour.
Donc, ouais.
On joue tous les deux. C'est un très, très beau film. Et après, je vais tourner la série de Marion Vernoux pour France 2 aussi, 6x52. Voilà, va bien.
Il y a plein de belles choses.
Et du Cobu, je tourne cet été.
Ah bah oui, la suite.
Ouais. Bon. Ouais, exactement, du Cobu 5. Voilà.
Alors, si pour le bon Dieu, on se demandait toujours s'il allait y avoir une suite jusqu'au 3, là, on a l'impression que le 4 verra jamais le jour, on n'entend plus parler de rien.
Non, hein.
On a l'impression que la boucle est bouclée, là.
Pas. Ouais, voilà, l'aventure était belle comme ça, on s'arrête là, quoi.
Bon.
Bon, après, on verra, hein.
Oui. On sait jamais. Dans 10 ans. Pourquoi pas retrouver ces familles de fous dans 10 ans?
Oui, c'est ça. A priori, pour l'instant, il n'y a pas de projet, quoi.
Eh bien, écoute, on t'embrasse très fort. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous. On te retrouve mercredi.
Merci beaucoup, Alain.
Dans Hawaï. Ouais. Au cinéma, le film à ne pas rater cette semaine.
Le 10 mai.
Et c'est notre coup de cœur, évidemment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Alain. À bientôt.
À très vite.
À très vite, au revoir.
On a tous eu très peur, on n'était pas dans notre état normal. Faut que tu redescendes là.
Je suis désolé pour peste et choléra, voilà, ça va. Mais dégage, merde.
J'espère que tu me pardonnes. En tout cas, moi, je pardonne à tout le monde.
Ah ben, moi, je pardonne pas.
C'est pas gentil de faire ça à son ami.
On se dit qu'on s'aime et tout était facile.
Par rapport à la chantilly, est-ce que vous vous interrompez?
Arrête,
quelqu'un se lève et va chercher.
Je te jure, c'est dur.
La crème au frigo?
Non, c'est dur.
Ou bien est-ce que vous la sortez au préalable?
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura le plaisir de recevoir l'équipe du téléfilm Disparition inquiétante pour France 2. On parlera évidemment des randonneuses pour TF1. On évoquera les histoires d'Anouk avec Noémie Chiche-Portiche et Bérangère Krief. Et on parlera également du concert des années 80, Star 80 sur France 2. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente sur mariemorin.fr.